Je regarde l'heure et nous allons quand même ouvrir notre Bible dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 4 pour continuer notre découverte de Jésus. Souvenons-nous, cette série, à la découverte de Jésus. Et aujourd'hui, pendant quelques minutes, peut-être un peu moins que j'avais prévu, nous allons voir l'attitude de Jésus envers l'autre. Vous savez, aujourd'hui, dans notre société, surtout face à l'immigration, face à tout ce qui se passe dans le monde, les étrangers, les autres, il y a une peur aujourd'hui en France. Déjà dans l'Europe, aux États-Unis, je la vois, cette peur de l'autre. Voilà, celui qui est différent, la personne qui n'est pas tout à fait comme nous, qui peut-être vient d'ailleurs, qui a d'autres pensées, l'autre. La personne qui n'est pas comme nous, qui ne fait pas partie de notre groupe, de notre contexte. Et c'est ce que nous avons dans Jean chapitre 4. C'est l'attitude de Jésus envers l'autre. Et parce que Jésus agit comme il va agir ici, et parce qu'il nous montre l'attitude que lui, il a, cette attitude doit être la nôtre lorsque nous rencontrons des personnes qui ne sont pas comme nous. Et ça, c'est tout le monde, parce que personne n'est comme nous. Vous n'êtes pas comme moi, et je ne suis pas comme vous. Heureusement! Nous sommes différents des uns des autres, n'est-ce pas? Frances nous a parlé de son contexte, de son arrière-plan et tout, qui est différent du vôtre. Et chacun a ses expériences, a ses idées, a ses croyances différentes. Et quelle doit être notre attitude envers l'autre? Et c'est ce que Jésus va nous expliquer par sa façon d'agir dans Jean chapitre 4. Alors, si vous y êtes, vous savez peut-être, mais je vais vous le dire, c'est l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine près du puits. Alors, un peu faute de temps, je ne vais pas lire tout le passage que nous allons examiner, nous le verrons au fur et à mesure, mais on va commencer bien sûr tout au début, verset 1. Le Seigneur sut, alors le Seigneur c'est bien sûr Jésus, il est le maître, il est celui qui a l'autorité. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Alors quel scandale, Jean-Baptiste, ce grand prédicateur qui prêchait la repentance, qui animait des foules, qui attirait des personnes vers lui, et maintenant cet inconnu de Nazareth, ce fils de charpentier arrive, et qu'est-ce que lui il fait? Et donc ça avait scandalisé, choqué les chefs religieux, mais apparemment ils étaient mal informés, les chefs religieux, parce que verset 2 nous apporte la précision: toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Verset 3, alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Alors, petit cours de géographie. Judée, c'est la partie sud, donc d'Israël. Et Galilée, c'est la partie nord. Donc, c'est comme si on allait de Toulouse à Dunkerque. Et pas aussi loin, mais voilà, c'est l'idée. On est dans le sud et maintenant on va dans le nord. Pourquoi quitter le sud alors qu'on est si bien? Jésus va le montrer. Donc, gardez cela bien à l'esprit. Donc, Judée, partie sud. Galilée, partie nord. Jésus se dirige vers le nord. Et au verset 4, petite précision de la part de Jean: comme il fallait. Alors, gardez bien à l'esprit ce mot. Soulignez-le si vous voulez. Il fallait. Il fallait quoi? Il fallait qu'il passe par la Samarie. Alors, vous le savez peut-être, mais juste petit rappel. Samarie, à la fois la ville, mais aussi la région, c'était des moitiés juifs. Pour faire court, c'était un mélange de juifs et puis d'assyriens. Donc le royaume assyrien était venu s'installer, et il y a eu des mariages mixtes entre des juifs et des non-juifs. Et donc, aux yeux des vrais juifs, entre guillemets, ils se sont dit, ces gens-là ne sont pas de pure race, ne sont pas de vrais juifs, alors on les méprise. Ils sont là au nord, ils sont là dans leur coin. Et finalement, cette partie-là était entre la Judée, donc au sud, et la Galilée au nord. Et aussi, peut-être vous le savez, mais encore pour rappel, les purs juifs, souvent, ils faisaient le contour de Samarie parce qu'ils ne voulaient même pas passer par ce territoire. Ils avaient un tel mépris pour ces personnes, ils se sont dit, mais ce ne sont pas des gens dignes à la fois de notre présence, de notre influence. Mais là, qu'est-ce que Jésus fait? Il fallait, il devait, il y a un peu l'obligation là, il devait absolument passer par la Samarie. Lui, il n'allait pas faire le tour, il n'allait pas prendre le chemin plus long, plus de temps, non, il allait direct, il allait traverser la Samarie pour aller en Galilée. Pourquoi? Parce que lui, il savait qu'il y avait là quelqu'un qui devait être touché par son message et par sa vie. Alors, Jésus n'a pas hésité d'aller auprès des gens, à leur rencontre, d'aller là où ils sont. Et c'est une des toutes premières choses que nous voyons dans ce passage, l'exemple de Jésus, sa façon d'agir, son attitude envers l'autre, c'est que cette personne doit bénéficier de notre présence et de notre témoignage. Malheureusement, nous attendons trop souvent que les gens viennent vers nous, un peu comme Nicodème. Alors Nicodème est venu trouver Jésus. Jésus n'avait pas besoin d'aller chercher Nicodème quelque part. Non, Nicodème est venu vers lui, chapitre 3. Beaucoup sont venus vers Jésus quand ils ont entendu parler de son enseignement, quand ils ont entendu parler de ses miracles et tout. Mais aussi, Jésus prenait le temps d'aller vers des personnes. Et n'est-il pas vrai, je pense que nous pouvons tous témoigner de la chose, trop souvent, nous attendons que les gens viennent vers nous. Et parfois, ça c'est bien, parfois les gens viennent, et gloire à Dieu pour cela, et quand ils le font, il faut leur témoigner. Mais nous avons cette obligation, et l'exemple de Jésus nous le montre, d'aller vers des personnes. Et d'aller vers des personnes que peut-être nous n'aimons pas trop, ou qui ne nous ressemblent pas, ou que peut-être nous ne pensons pas être très agréables. Jésus était tout à fait au courant des tensions, de l'animosité, du mépris entre les Samaritains et les Juifs. Mais cela ne l'a pas empêché d'aller dans cette région. Il devait absolument y aller pour apporter ce témoignage. Et pour nous, y a-t-il des endroits où nous préférons ne pas y aller? Bon, bien sûr, toute chose doit être faite avec discernement et sagesse. On ne va pas se mettre en danger, forcément, pour apporter la parole. Bien que Dieu protège, mais on n'est pas insensé. On est sensé, on agit avec sagesse. Mais est-ce que, comme dans la parabole du bon samaritain, on passe de l'autre côté de la rue? On évite certains gens parce qu'on se dit « Ah non, cette personne, je ne veux pas lui parler. » Ou est-ce qu'on voit toute personne sur notre route? Est-ce que nous allons même vers des personnes que peut-être le monde méprise? Que la société va dire « Ah, on va les laisser de côté. » Est-ce que nous allons leur apporter donc la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ? Jésus, ici, montre l'exemple qu'il est allé sur le terrain. N'est pas resté à Jérusalem, parce qu'il était à Jérusalem, n'est pas resté dans les environs, là où c'était confortable. Frances aussi a parlé du zone confort. Ne nous dérangeons pas trop, vivons notre vie tranquille, et si les gens viennent, tant mieux, s'ils ne viennent pas, tant pis pour eux. Ah non, 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 non. Il nous faut aller trouver des personnes, aller à leur rencontre, aller là où ils sont, pour leur apporter la bonne nouvelle. Le verset 5 nous montre l'endroit exact. Verset 5, Jésus, il est avec ses disciples. Le verset 8 va nous le dire. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Donc c'était bien une partie d'Israël. Ça appartenait au peuple choisi par Dieu. Mais là, les Samaritains, ces gens, moitié juifs, moitié païens, étaient là. Et verset 6, là se trouvait le puits de Jacob, Jésus, et là, regardez ça, ça me frappe à chaque fois, fatigué. Il est Dieu, il est le Tout-Puissant, il est celui qui ne dort pas, qui ne sommeille pas. Il est celui qui a toute puissance. Et là, Jésus, fatigué. Parce qu'il était humain. Et là, il s'identifie à nous. On a cette idée de Jésus comme Dieu, et il est, il faut garder cette idée, mais Jésus était aussi humain. Et ils avaient fait des kilomètres à pied. Alors, c'est ce verset 6 qui va nous indiquer que c'était environ la sixième heure, donc environ midi. S'ils étaient partis de bonne heure le matin, ils avaient fait probablement une quinzaine de kilomètres. Alors, imaginez-vous, vous faites une marche de 15 kilomètres, croyez-moi, vous allez être fatigué, n'est-ce pas? Et on comprend ici, Jésus, il est midi, il faisait probablement chaud, il est fatigué, apparemment il a soif, parce qu'au verset 7, il va demander à boire. Et nous voyons que Jésus, tout à fait humain. Et pourquoi est-ce que ça c'est important? Cela est important parce que ça veut dire qu'il peut s'identifier à nous. Est-ce que nous sommes fatigués par moment? Oui. Est-ce que nous sommes peut-être fatigués en ce moment? Oui, peut-être. Et Jésus l'était aussi. Mais la fatigue, Jésus ne s'en est pas servi pour dire « Ah, je suis fatigué, alors je ne m'occupe pas des autres et je ne fais rien. » Non, il a quand même pris le temps, alors qu'il était fatigué, alors qu'il avait soif. Alors, il demande à boire dans les versets qui suivent. Donc, il ne demande pas à boire parce que, voilà, il n'avait rien d'autre à faire. Non, il demande à boire parce qu'il avait soif. Il était fatigué. Mais avec ses besoins réels dont il était touché, il ne s'en est pas servi comme des excuses pour ne pas discuter et prendre du temps pour cette femme. Et quel exemple pour nous? N'est-il pas vrai que par moments, nous nous servons d'excuses pour dire soit on est trop fatigué, on est trop occupé, et on ne va pas vers quelqu'un, ça n'a pas besoin d'être 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes, mais une seule personne. On ne prend même pas le temps, et je parle pour moi aussi, nous ne prenons même pas le temps pour une seule personne pour leur apporter le salut en Jésus-Christ. Cette semaine, je vous pose la question, avez-vous pris le temps de parler à quelqu'un du salut en Jésus-Christ? Une seule personne. Et je le dis à moi aussi. Jésus avait des besoins légitimes, Jésus était fatigué, Jésus avait soif, il avait sûrement faim aussi, il est midi, je ne sais pas vous, mais à midi, à quoi est-ce qu'on pense? À manger, c'est normal, des besoins normaux que Dieu nous donne. Mais tout cela ne l'a pas empêché d'apporter le salut à cette femme. Alors que cette femme, elle avait tout contre elle, tout. Déjà, c'est une femme. Et souvenons-nous, on n'est pas au 21e siècle. Non, là, c'est 1er siècle. Et elle-même, elle s'étonne qu'un homme lui parle. Donc déjà qu'un homme lui parle, ça sort de l'ordinaire. Un homme juif, alors elle a très bien compris que c'était un juif, elle, samaritaine. Et elle va dire au verset 9, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Donc déjà, elle est femme. Alors, comprenez très bien, il n'y a rien de mal à être femme. Okay? Dieu les a créées, Dieu les aime, gloire à Dieu pour les femmes, parce que sans elles, on ne serait pas là. Bon. Dans ce contexte historique, culturel de l'époque, les femmes, malheureusement, souvent étaient méprisées, étaient mises de côté. Ça, c'est pas bien, mais c'était la réalité de ce contexte historique culturel. Et elle se dit, ben, moi, femme, en plus, samaritaine, quelqu'un qui, en plus d'être femme, était méprisée pour sa culture, pour son ethnie. Et elle s'est dit, mais cet homme, pourquoi il me parle? Quelque part, il n'a pas à me parler. Et c'est là où nous voyons cette femme, alors qu'elle n'était pas de la même culture, Elle n'était pas de la même ethnie, c'est-à-dire arrière-plan historique, et elle n'était même pas de la même religion. Alors, on ne prendra pas le temps de lire encore une faute de temps, mais je vous encourage fortement à lire la suite. Cette femme n'était pas de la même religion, c'est-à-dire la même croyance. Alors, elle va dire, nous, nous adorons sur cette montagne. Ici, nous avons nos propres croyances. Et vous, les Juifs, dit-elle, bah, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer, ce qui était vrai. Vous êtes censés avoir le vrai Dieu. Et là aussi, bah, quelque part, Jésus n'avait pas à lui parler, diraient certains. Elle était femme, elle était samaritaine, elle n'était pas de la même croyance. Mais en plus de tout cela, comme si cela n'était pas assez, elle était adultère. Elle était une femme de mauvaise vie. Elle avait eu 5 hommes, comme si 1 n'était pas suffisant. Comme si 2, 3, 4, 5, c'est ce que Jésus va relever. Verset 18. Tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Donc elle avait quitté les 4 premiers, elle n'était même pas remariée avec ce 5e maintenant. Et on se donne une image de cette femme et on se met à la place de Jésus et je me pose la question, si j'étais là, avec cette femme, près de ce puits, est-ce que moi j'aurais pris le temps de lui parler? Est-ce que moi j'aurais eu la compassion que Jésus il a eue? Est-ce que j'aurais pris le temps même de la regarder ou est-ce que je l'aurais regardé un peu du coin de l'œil? En disant, ah bon, qu'elle reste un peu dans son coin là, moi je vais faire ce que j'ai à faire et puis moi je vais partir. Et l'exemple de Jésus ici, où malgré toutes ces choses qui, au niveau humain, auraient mis un mur infranchissable entre lui et cette femme, avec Jésus tout ça disparaît. Et il prend le temps d'engager la conversation. Il commence avec quelque chose de totalement naturel, de l'eau. Que de plus basique que de l'eau. Il demande à boire. Et partant de cette simple demande, Jésus va emmener la conversation vers l'eau éternelle, l'eau vive, l'eau qui peut apporter la vraie vie. Et encore une fois, est-ce que à la place de Jésus, on aurait fait cela? Et est-ce que aujourd'hui, face à des gens qui ne sont pas comme nous, et il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Est-ce que aujourd'hui, face aux gens qui sont totalement indifférents, qui sont, comme ils disent, agnostiques, c'est-à-dire croient pas du tout, qui sont froids, qui sont hostiles pour certains, face aux musulmans qui sont devant nous? Ces gens d'autres religions, est-ce que nous avons l'attitude de Jésus, c'est-à-dire on est ouvert à parler avec eux? Ou est-ce que nous préférons qu'eux ils restent dans leur coin tout comme nous restons dans notre coin et comme ça, ben, pas de désaccord, pas de dialogue et voilà, chacun s'occupe de sa vie et puis c'est tout. Jésus ici ne pouvait pas laisser passer cette occasion d'apporter la vraie vie à cette femme. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de faire pareil. Et en lisant cette histoire, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cette histoire du bon samaritain que Jésus donne. Et on mise beaucoup sur le samaritain, qui lui a été l'ami de celui qui est tombé entre les mains des brigands. Mais le sacrificateur, le prêtre, qui sont passés, bah, l'un est passé de l'autre côté, et on dit, ah mais, quelle honte! Un homme de Dieu, quand même! Il passe de l'autre côté de la rue, il ne veut même pas le voir. Un autre, il vient, bah, il voit un peu, et puis il passe son chemin. Non mais c'est lamentable! Où est l'amour de Dieu là-dedans? Il n'y est pas! Et à notre honte, n'est-il pas vrai que par moment, on se dit, ah, telle ou telle personne ne mérite pas que je lui parle. Telle ou telle personne, peut-être pas physiquement, je passe je ne passe pas de l'autre côté de la rue, mais voilà, je continue mon chemin et là, je ne parle pas du tout. Jésus nous montre l'exemple ici. Et c'est un exemple que nous pouvons suivre et mettre en pratique aujourd'hui et demain. Nous croisons des personnes et nous devons même aller à la rencontre de personnes autour de nous. Alors, en plus de tout cela, Jésus va montrer la façon d'emmener la conversation. Parce que parfois, on discute avec des gens. Alors, admettons, gloire à Dieu, qu'on va parler avec quelqu'un et on engage la conversation, mais cette personne a de fausses croyances ou de mauvaises idées. Quelle est notre tentation? Notre tentation, c'est d'essayer de corriger toutes les mauvaises croyances, toutes les fausses idées. Ah, tu as tort là. Ah non, c'est pas ça, voici. Et on essaie de rétablir tout dès le départ. Mais finalement, regardez comment Jésus, lui, il se prend. Verset 7, la toute première chose que Jésus va dire à cette femme, c'est « Donne-moi à boire ». C'est tout. Il engage la conversation simplement avec une idée qu'elle, elle peut comprendre sans ambiguïté. Alors, de l'eau, je pense que tout le monde comprend. Et le besoin de boire, tout le monde comprend également. Et Jésus, il part de là. Mais bien sûr, ça étonne la femme au verset 9. Elle dit, mais tu n'as pas à me demander à boire ça. Il n'y a pas de relation entre les Juifs, les Samaritains, ces gens qui ajoutent un peu une parenthèse là. Et ça permet au verset 10 à Jésus d'apporter une précision. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Cette femme, elle était restée avec des choses, on va dire, de la terre, matérielles, besoins physiques. Et Jésus, son but, c'était de passer à ses besoins physiques, qui sont réels, souvenons-nous, ne les négligeons pas, mais de passer de ses besoins physiques vers des besoins spirituels. Parce qu'il va parler dans le verset 10 de l'eau vive. Et verset 11. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?» Lorsque nous commençons à parler de réalité spirituelle, lorsque nous commençons à parler de la Bible, de Dieu, de notre relation avec Dieu, est-ce que tout le monde comprend de quoi nous parlons? Non. Les gens autour de nous, on commence à leur parler de Jésus, comment il nous aide au jour le jour, leur parler de réalité céleste et tout. Et ben, ils nous regardent avec le regard au loin, mais qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui? Je ne comprends rien. On a ce langage chrétien, biblique, et les gens, ils s'y perdent, quoi. Et il ne faut pas être étonné si nous commençons à parler de quelqu'un qui n'est pas sauvé, de réalité spirituelle, que cette personne ne comprend pas du premier coup. Ça ne doit pas nous étonner. Mais finalement, qu'est-ce qui arrive? N'est-il pas vrai que parfois nous devenons frustrés? Nous disons à la personne, ben, « Crois en Jésus et tu seras sauvé. » Mais la personne ne croit pas. Non, mais c'est tellement simple, mais crois, oui, oui, mais on croit. Et du premier coup, lorsque la personne ne comprend pas, on devient frustré. On dit, mais c'est tellement simple. Fais ceci et il y aura ce résultat. Mais Jésus, ici, dans ce passage, n'est pas devenu frustré, alors que cette femme, elle n'a pas compris. Jésus, il commence à lui parler de réalité spirituelle et elle reste sur des réalités terrestres. Verset 12, elle montre qu'elle a quand même une certaine connaissance. « Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Et ce que Jésus fait avec calme, avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amour. Verset 13, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et là, il arrive au point culminant, la vie éternelle qui passe par lui-même. Donc, c'est lui qui est cette source d'eau. Et là, on s'attend à ce que la femme dise, « Ah oui, d'accord, je comprends, bah oui, donne-moi de cette eau-là. » Mais non, non. Verset 15. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Je ne sais pas vous, mais moi, je me dis, « Mais elle n'a toujours pas compris. » Là, maintenant, la troisième fois que Jésus essaie de diriger sa pensée et sa réflexion, elle n'a toujours pas compris. Et encore une fois, je ne sais pas vous, mais moi, quand les gens ne comprennent pas, je suis extrêmement frustré. S'il y a une chose qui me frustre, c'est que les gens ne comprennent pas les choses qui semblent pour moi tellement évidentes et simples. Et Jésus qui essaie d'emmener la réflexion de cette femme plus loin, de la diriger vers les réalités concernant Dieu, et elle ne comprend toujours pas. Mais comment est Jésus ? Est-ce que Jésus est frustré ? Non. Avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de patience, Jésus va continuer de la diriger. Et au verset 16, parce que nous connaissons si bien cette histoire, on a tendance à passer à côté de ceci. Elle reste sur cette idée qu'elle va avoir quelque chose de physique qui lui permettra de ne plus venir faire ce travail qu'elle était obligée de faire régulièrement. Et au verset 16, Jésus va dire, va appeler ton mari. Et c'est quelque chose que nous voyons souvent dans l'évangile de Jean. Jésus va dire des choses et on se dit, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il vient de dire. Là, il venait de parler de cette eau vive et tout, et maintenant il dit, c'est comme s'il change complètement le sujet. Va appeler, appelle ton mari, viens ici. Où est le lien? Finalement, ce que Jésus voulait faire ici, c'est qu'il voulait faire prendre conscience de l'état de cette femme. Il voulait qu'elle se rende compte elle-même qu'elle n'était pas en règle. Et c'est ce qu'elle va faire. Verset 17, la femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Elle se dit, « Bon, je ne dis pas de mensonge. Je ne dis pas toute la vérité, mais je ne mens pas non plus. » Et finalement, Jésus qui sait toutes choses va dire au verset 17, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Alors imaginons que quelqu'un nous dise tout ce que nous avons fait, qui connaît tous les détails de notre vie. Ça surprend, n'est-ce pas? Et ça a surpris cette femme. « Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. » Elle arrive à la bonne conclusion. Elle commence à comprendre. « Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient. Ou ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. » car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande, ou on peut le traduire recherche. Il recherche ces adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Et par ceci, Jésus est en train de diriger la pensée, la réflexion de cette femme, petit à petit, avec patience, avec amour, vers la conclusion qu'elle a mal agi, elle a de mauvaises croyances, elle est dans une mauvaise position, et que ce ne sont pas les rites religieux, que les Samaritains, ni même les Juifs, faisait, que ce ne sont pas les œuvres, ce n'est pas aller dans tel ou tel endroit, faire ceci ou cela, ce n'est pas ça qui est le plus important. Non, c'est la relation avec Dieu en esprit et en vérité. Et petit à petit, par étape, une réflexion après l'autre, Jésus emmène cette femme dans cette réflexion. Mais ça prend du temps. Ces versets présentent ceci comme l'affaire presque de quelques secondes, qu'un échange rapide et tout. Mais finalement, ceci a mûri dans l'esprit de cette femme et elle n'a pas compris du premier coup. Mais petit à petit, Jésus l'éclairait et il a pris le temps. Il n'a pas baissé les bras après la première fois quand elle n'a pas compris. Non, il a insisté, il a continué. Et lorsque nous voyons la façon dont Jésus agit et traite avec cette femme qui avait tout contre elle. Aux yeux humains, Jésus aurait dû garder ses distances, rester à l'écart, la mépriser. Mais non. Il va vers elle, lui annonce la vérité, cherche à changer sa croyance pour la diriger vers la vérité. Et lorsqu'elle est un peu lente à comprendre et à accepter, il ne devient pas frustré, mais il continue, il persiste avec compassion, avec patience, avec amour. Et encore une fois, dans notre vie, il y a sûrement des gens qui sont lents à comprendre. On peut peut-être tous penser à des personnes auxquelles on a témoigné 1, 2, 5, 10, 100 fois et qui ne croient toujours pas. Des personnes où on va dire, mais eux, ils ne croiront jamais. Mais qu'en savons-nous? Il y a des personnes auxquelles nous pouvons penser, où on se dit, mais cette personne-là, je lui ai témoigné tant de fois. Ou j'ai témoigné une fois, j'ai exposé la vérité, j'ai utilisé les meilleurs arguments. Des arguments irréfutables, la logique la meilleure, et cette personne n'a toujours pas cru. Et on peut avoir envie de baisser les bras, de dire ça ne vaut pas la peine parce que bah, les gens ils sont durs, ils sont résistants, ils sont indifférents, ils sont autosuffisants, ils ne sont pas comme nous, ils vont rester dans leurs croyances et de toutes les façons, moi je n'y peux rien, alors ce n'est même pas la peine. Et cette réflexion ne vient pas de Jésus, non. Jésus veut toucher le cœur de chacun. Et il se sert de vous et moi pour le faire. Et il y a des personnes dans notre entourage qui ne sont pas comme nous. Des personnes qui peut-être ne parlent même pas le français. Des personnes qui peut-être comprennent mal le français. Des personnes qui viennent d'autres pays, d'autres contextes, d'autres religions. Des personnes qui ont de mauvaises croyances. Des personnes dont la pensée concernant Dieu doit être corrigée. Et si ça ne change pas du premier coup, quelle est notre réaction? Imaginons si Jésus, lui, dans ce premier échange, voyant que la femme n'avait pas comprise, il avait dit, bon, bah, tant pis pour toi, j'ai essayé, débrouille-toi. Ça nous choquerait si Jésus, jamais, il avait fait ça. Et parce que nous sommes censés imiter l'exemple de Jésus, pourquoi est-ce que nous nous permettrions de faire cela? Il est tout à fait normal, et c'est ce que Dieu attend de nous, à ce que nous imitions l'exemple de Jésus en ce qui concerne notre attitude envers l'autre. Et la question que nous pouvons nous poser face à ce passage, c'est « Qui est mon prochain ?» Cet homme qui a voulu se justifier quand Jésus a dit « Quels sont les plus grands commandements ?» Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Et là, bon, qui est mon prochain ? C'est toute personne que Dieu place sur notre route. Et c'est envers ces personnes-là que nous devons témoigner de l'amour de Jésus. Et lorsque nous sommes vis-à-vis de l'autre, quelqu'un qui ne nous ressemble pas, qui est différent, évitons, laissons de côté, bannissons le mépris, bannissons l'indifférence, bannissons la méfiance. Non, que l'amour caractérise les enfants de Dieu. Le monde va avoir peur. Les gens qui ne connaissent pas Dieu vont avoir peur. Et ça, c'est normal. Ils ne connaissent rien d'autre. Mais les enfants de Dieu possèdent l'amour de Dieu. Et l'amour parfait bannit la peur, comme dit 1 Jean. Alors, aujourd'hui, demain, lorsque vous serez face à l'autre, quand vous serez confronté par l'autre, et là, vous mettez qui que ce soit. Pensez à quelqu'un, ou même imaginez quelqu'un que vous serez emmené à rencontrer, qui sera différent de près ou de loin de vous cette semaine. Et prenez déjà la décision d'agir avec amour, avec patience, avec compassion, avec compréhension envers cette personne. Même si vous ne pensez pas que cette personne le mérite, cette personne est une créature de Dieu que nous devons aimer et avec laquelle nous devons partager le salut en Jésus-Christ. Les gens sont très terre à terre aujourd'hui. Et il nous faut les aider à changer de perspective pour diriger leur regard vers Dieu. Alors, comment serez-vous ? Comme les disciples qui ont méprisé, qui en revenant, ça c'est à la fin de ce passage, ils reviennent, ils sont étonnés, mais qu'est-ce que Jésus fait parler avec cette femme ? Il n'a pas à faire ça. Ou est-ce que nous serons comme Jésus, qui prend du temps, qui parle tout simplement à cette femme pour chercher à la diriger vers Dieu ? Prenons la décision aujourd'hui. Notre attitude face à l'autre sera l'amour de Dieu. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ton exemple, pour ton amour que tu mets dans notre cœur lorsque nous t'avons reçu par la foi. Merci pour cet amour qui est là, qui vient de toi et que tu nous permets de partager autour de nous, que tu nous aides face à ceux qui sont différents de nous, face aux autres, de pouvoir agir, parler, avoir l'attitude que toi tu avais. Seigneur, que nous puissions briller par l'amour qui est en nous, que les gens puissent voir cela, le ressentir déjà entre nous et envers les autres. Et ainsi, Seigneur, que leurs yeux, leurs pensées soient dirigées vers toi afin qu'ils arrivent au salut, que le plus grand nombre puisse croire, Seigneur, parce que cet amour se répand en nous et à travers nous, et que toute la gloire te revienne pour ce que toi tu feras. En ton nom. Amen.